Pour les autorités actuelles à Madagascar, c'est évident, puisqu'elles l'ont fait condamner à la prison pour des détournements financiers liés à son mandat présidentiel. Mais y compris pour la communauté internationale, cette affaire, et pour l'Afrique du Sud aussi, commence à devenir gênante. Alors, avec la signature de la feuille de route, on allait vers la possibilité qu'il y ait un retour, à un moment donné, de l'ancien président. Mais jusqu'à ce jour, le timing du retour était laissé à l'appréciation du gouvernement de transition actuellement en place à Madagascar. Or, Marc Ravalomanana a voulu un peu précipiter les choses en décidant lui-même de rentrer. L'idée était effectivement de son côté de créer un rapport de force vis-à-vis du pouvoir de transition actuel pour essayer de se positionner, relancer ses affaires commerciales d'abord parce qu'il commence à y avoir une nécessité financière pour lui à relancer ses affaires commerciales et d'un autre côté se positionner politiquement pour les prochaines élections présidentielles malgaches. Donc lui a précipité un peu le timing, c'est-à-dire qu'en fait il est rentré avant même que la communauté internationale n'ait pu obtenir du gouvernement de transition une acceptation, un délai, un timing pour qu'il revienne. Donc à partir de là, c'était un mini bras de force qui se créait et on voyait mal comment le pouvoir de transition et surtout ses partisans les plus radicaux pouvaient prendre le risque de le laisser rentrer parce que le laisser rentrer c'était se retrouver devant l'alternative suivante. Soit le mettre immédiatement en prison parce qu'il a été condamné, soit bafouer ses propres décisions de justice en le laissant aller. Dans ce cas-là, on en faisait une sorte de héros. Et donc, se créer une situation qui était incontrôlable pour le gouvernement de transition. Donc là, le gros problème qui se pose, c'est que tous ces événements risquent de dynamiter le processus de négociation, de consensus qui était balbutiant mais en train de se mettre en place depuis la signature de la feuille de route.
Et justement, lors de sa visite en France en décembre dernier, le président de l'autorité malgache de transition, Rajoelina, avait promis des élections le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les élections, ça va être assez compliqué parce que pour qu'il y ait élection soutenue par la communauté internationale, donc avec un certain nombre de financements de l'Union européenne pour la préparation du processus électoral et avec un certain aval international aux élections, pour cela, il faut un certain nombre de choses. Il faut un certain nombre de modifications législatives. Il faut une nouvelle commission électorale nationale indépendante. Tout ça, c'est pas encore fait. Or, pour que ce soit fait, et pour qu'il y ait une révision des listes électorales, pour qu'il y ait un processus avalisé par la communauté internationale, il faudrait que, disons, ces modifications aient lieu dans le premier trimestre de l'année. Si ces modifications-là n'ont pas lieu dans le premier trimestre de l'année, on sera hors des clous pour des élections en 2012. On projettera, parce qu'après intervient la saison des pluies, donc on projettera très probablement les élections à l'année prochaine. Donc aujourd'hui, il y a urgence pour le gouvernement de transition à mettre en œuvre, disons, le calendrier de réformes institutionnelles liées aux élections qu'a mis au point l'Union européenne notamment et la communauté internationale comme condition à leur soutien à ce processus électoral. Et c'est bien ce qu'a compris Marc Ravalomanana. S'il laissait faire ça sans intervenir, il risquait fort de se retrouver à out du processus électoral. Donc il a voulu rentrer dans le jeu en revenant précipitamment. Et bon, ce qui provoque une autre crise et ce qui risque effectivement de gêner le gouvernement de transition dans le processus en cours. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser que la crise n'est pas terminée, que la transition est chaotique et que le consensus est loin d'être atteint. Parce qu'en plus d'une partie de la mouvance Ravalomanana qui est marginalisée dans ce processus, il y a aussi une partie des partisans de l'ancien président Albert Zaf qui ne soutient pas non plus le processus consensuel en cours. Donc ce consensus est vraiment très très fragile.
Comme vous l'avez dit, donc Madagascar est plongé dans une crise profonde depuis 3 ans maintenant. Quelles ont été les répercussions au niveau social et économique ?
C'est terrible au niveau économique et social parce que dans un premier temps, disons, la grande masse de la population malgache, qui était déjà à un niveau de vie extrêmement bas, n'a pas eu les conséquences de cette crise. La crise a surtout touché les populations urbaines, y compris les classes moyennes. Donc on ne voyait pas dans les campagnes une évolution négative liée à la crise. Mais ça, c'était vrai dans les premiers mois ou, disons, dans la première année de la crise. La crise perdurant, effectivement, les conditions économiques et sociales, ça induit des effets économiques et sociaux néfastes pour l'ensemble de la population. On a un blocage des investissements, les gens sont quand même relativement attentif à ce qui va se passer au plan politique. On a un blocage déjà international. Alors là, on va avoir à partir de juin, normalement, un déblocage progressif d'un certain nombre d'aides de l'Union européenne, mais à condition que cette aide transite par des voies non gouvernementales, ONG, associations civiques ou autres. Donc bon, on ne sait pas encore, ça ne démarrera qu'à partir de juin. Après, on sait que l'administration européenne n'est quand même pas rapide, donc on aura aussi tout un processus de mise en œuvre de ces mesures. Il y a de fortes chances qu'elles arrivent trop tard pour un certain nombre de gens, et il y a forte chance que ce soit une goutte d'eau par rapport aux problèmes économiques et sociaux qui existent dans ce grand pays qu'est Madagascar.